RFI, 14h30 à Paris, midi et demi, en temps universel. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver Nicolas Brousse pour Afrique Midi. Bonjour Nicolas.
Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Journée mondiale pour un avortement sans risque, journée de sensibilisation, alors que près d'une femme sur deux à travers le monde n'a pas un accès libre et libéralisé à une interruption volontaire de grossesse. Sujet encore largement tabou sur le continent, c'est le dossier d'Afrique Midi. La Guinée-Conakry commémore ce samedi les 15 ans du massacre du 28 septembre, ainsi appelée la répression sanglante d'un meeting de l'opposition dans un stade de la capitale. 15 ans après, le procès a enfin eu lieu et ses conclusions sont sans appel, notamment sur la préméditation de cette opération. Dans ce journal également, des questions au Tchad autour du changement surprise hier de son directeur de cabinet par le président Mahamat Idriss Déby. Au Bénin, après l'arrestation cette semaine d'Olivier Boko, un homme d'affaires jusqu'ici réputé très proche du président Patrice Talon. Et puis du football, les leaders du championnat allemand comptent sur leurs titulaires africains. C'était le cas hier avec le Borussia Dortmund et ce sera le cas tout à l'heure avec le match du week-end auquel participe le Bayer Leverkusen. Afrique Midi, toute l'actualité africaine, bienvenue. On tourne ensemble la première page. Ce 28 septembre est donc journée mondiale du droit à l'interruption volontaire de grossesse, journée nécessaire puisque 40% des femmes à travers le monde vivent dans un pays qui restreint, voire interdit carrément leur droit à l'avortement. C'est notamment le cas en Afrique où plus de 6 millions d'avortements à risque seraient pratiqués chaque année, engendrant au moins 15 000 décès. Car, Pierre Firsion, dans la plupart des États du continent, les législations sont plutôt restrictives.
Dans la majorité des pays du continent, l'avortement est autorisé uniquement sous condition. Pour raison médicale, par exemple en RDC, en Centrafrique et en Algérie, pour sauver la vie de la mère au Mali, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Seuls quelques rares pays comme l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Bénin l'autorisent sans restriction, alors que plusieurs États tels que le Sénégal, la Mauritanie, le Congo-Brazzaville et Madagascar l'interdisent encore totalement. Au sein de la Fédération internationale pour la planification familiale, on pointe du doigt le manque d'accès à l'information et à des services corrects, ce qui explique en partie le nombre d'avortements à risque pratiqués chaque année sur le continent. Ils sont évalués à plus de 6 millions, entraînant tous les ans au moins 15 000 décès. Autre raison avancée à ces mauvais chiffres, selon cette organisation, les informations erronées diffusées sur les législations en cours, un fox relayé par des groupes anti-avortement originaires des États-Unis, d'Europe et de Russie. En réaction, plusieurs organisations, dont la Fédération internationale pour la planification familiale, ont décidé en juin dernier d'unir leurs forces en créant sur le continent une coalition nommée Catalyst. Objectif, faire progresser le droit à l'avortement en rappelant qu'il est avant tout un soin de santé essentiel.
Voilà pour cet état des lieux signé Pierre Firsion. Illustration maintenant en Côte d'Ivoire, où les interruptions volontaires de grossesse sont globalement illégales, à quelques exceptions près, selon un récent article du Code pénal ivoirien adopté en juin dernier. Autorisation en cas de viol, d'inceste ou bien lorsque la grossesse met en danger la santé physique ou mentale de la mère. Mais l'avortement est en plus réprouvé socialement, tout en restant fréquent. Entre 200 000 et 300 000 IVG sont pratiqués chaque année en Côte d'Ivoire, souvent clandestinement, selon l'étude PMA 2020. Dans ce contexte, même si les soins médicaux et psychosociaux apportés aux femmes qui ont dû avorter ne sont pas interdits dans le pays, la question de l'accompagnement psychologique des femmes concernées reste encore largement taboue. Reportage à Abidjan de notre correspondant Benoît Almeras.
Nous l'appellerons Denise. Il y a une quinzaine d'années, son oncle la viole. L'adolescente tombe enceinte et pour éviter le scandale, elle doit avorter près d'un marché du nord d'Abidjan.
C'était un moment très traumatisant parce que la pratique se faisait dans des endroits où même on ne pouvait pas penser qu'une jeune fille même pouvait rentrer.
Mais ce n'est rien par rapport à ce que Denise ressent contre elle-même.
J'avais du dégoût pour moi-même, je ne m'aimais plus.
Et à cela s'ajoute la peur de la stigmatisation d'une ado avortée.
C'est comme si elle avait commis un crime et que personne ne devait s'approcher d'elle pour ne pas qu'elle contamine les autres enfants.
Aujourd'hui trentenaire, Denise n'a jamais bénéficié d'écoute. Elle dit avoir construit une carapace. Mais pour le psychologue Nour Bakayoko, les thérapies sont nécessaires pour les survivantes d'avortements clandestins.
S'il n'y a pas de suivi, on risque d'avoir des troubles dépressifs. Mais ce qui est un peu plus grave, on risque d'avoir plus les tentatives de suicide. Voilà pourquoi l'accompagnement est important, parce que ça nous permet de ne pas en arriver là.
Nour Bakayoko a contribué à former 90 militants à ses premiers soins psychologiques avec le soutien du mouvement Audace, qui plaide pour l'avortement sécurisé en Afrique francophone. Parmi eux, Denise veut ainsi aider les femmes dans son cas. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
En Guinée-Conakry, il y a 15 ans, jour pour jour, au moins 156 personnes, selon l'ONU, perdaient la vie lors de la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de la capitale. Ce massacre du 28 septembre 2009 a finalement été jugé le 31 juillet dernier par le tribunal de grande instance de Conakry, qui a rendu un verdict qualifié d'historique. Alors que la Guinée commémore ce samedi cet événement tragique, RFI a pu analyser le jugement contenu dans un document de près de 300 pages. La Cour y livre quelques vérités judiciaires sur les préparatifs du massacre et son caractère méthodique et systématique. Pour les juges, aucun doute, le massacre perpétré dans le stade avait bel et bien été prémédité. Parmi les preuves, Florence Maurice, vous qui avez lu pour nous l'épais document, la Cour retient que des miliciens à la solde du pouvoir ont été acheminés à Conakry pour être infiltrés parmi les manifestants avant le 28 septembre et qu'ils ont ensuite pris part à la répression sanglante.
Rapidement, après son arrivée au pouvoir, Dadis Camara, le chef de la junte, avait commencé à former une milice à sa solde, 2000 hommes environ sélectionnés et entraînés dans un camp situé à Kaléa en Basse-Guinée. Le verdict confirme qu'une partie de ces miliciens était présents au stade le 28 septembre et leur participation au massacre. Mais les juges vont plus loin dans leur verdict, puisqu'ils citent longuement le témoignage sans équivoque, disent-ils, d'un ancien de ce camp. Ce dernier raconte comment dès le 24 septembre, soit 4 jours avant la manifestation, 300 à 350 parmi les recrues de Kaléa avaient été sélectionnés pour être d'abord acheminés à Conakry, puis envoyés au stade et finalement participer à la répression. Selon les juges, plusieurs proches de Dadis Camara étaient impliqués dans leur encadrement. Blaise Goumou, alors membre des services spéciaux, est déjà condamné à 15 ans de prison, mais également d'autres personnages qui ne figuraient pas parmi les accusés. 6 au total ont été inculpés depuis. L'un d'entre eux au moins est en fuite, Gono Sangaré, intendant personnel de Dadis Camara à l'époque. On ignore si les autres seront entendus par les juges, puisque leurs avocats ont fait appel de leurs inculpations.
Florence Maurice, qui a réalisé un gros dossier à retrouver en intégralité sur RFI.fr. En attendant des nouvelles de Denise Mukendi, une influenceuse proche du pouvoir RD congolais, arrêtée mardi dernier à Brazzaville. Elle a été extradée vers la RDC, présentée au procureur de Kinshasa hier. Elle a été transférée à la prison centrale de Makala. Elle avait reconnu avoir ordonné l'arrestation et le viol de l'opposant Jacques Indala à l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, en 2021. Elle risque à présent une lourde peine si ses faits sont avérés et retenus par les juges à l'issue de son procès. Au Bénin, l'arrestation cette semaine d'Olivier Boko, ami de longue date et ancien homme fort du président Patrice Talon, suscite beaucoup de réactions à Cotonou, où la justice accuse de tentative de complot l'homme d'affaires. Ces derniers mois, Olivier Boko avait commencé à afficher ses ambitions politiques, laissant penser qu'il se porterait candidat à la succession de Patrice Talon à l'issue de son second mandat en 2026. Aujourd'hui, que ce soit la société civile ou la classe politique, chacun y va de son commentaire, Jean-Luc Caplogrand.
Les condamnations fermes et nettes viennent des deux grands partis soutien de Patrice Talon. L'UPR et le BR condamnent des faits d'une extrême gravité et rappellent que leurs valeurs sont contraires à la prise du pouvoir par la force. La réaction du mouvement OB26 qui appelle à la candidature d'Olivier Boko pour l'élection présidentielle de 2026 est courroucée. Pour le mouvement, il s'agit de l'acharnement et de l'exclusion de son champion. Le parti d'opposition FCBE demande à la justice de faire la lumière sur le dossier en toute impartialité. Côté démocrate, nous avons choisi de ne pas intervenir pour le moment, confie une voix autorisée du parti de Boni Yayi. Les loups se mangent entre eux, a commenté un cyberactiviste qui a choisi de rester distant. La toile, elle, s'enflamme depuis le début de l'affaire. Beaucoup cherchent à comprendre pourquoi la déclaration du procureur spécial et celle de la banque ivoirienne sur le compte ouvert au nom du chef de la garde républicaine ne disent pas la même chose et qui a dénoncé le complot. L'enquête se poursuit. Olivier Boko et Oswald Robinki sont toujours gardés à vue. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Jean-Luc Caplogan, dont les sources sécuritaires nous apprennent que l'armée béninoise a neutralisé hier matin deux terroristes en riposte à une attaque près de sa base de Karimama à 750 km au nord de Cotonou. Toujours au Bénin, un tanker a achevé ce samedi un chargement de 370 000 barils de brut nigérien à Sémé, là où aboutit l'oléoduc qui transporte le pétrole nigérien pour l'exportation. Le navire citerne arrivé hier est déjà reparti vers la Malaisie. C'est le troisième navire que le Bénin autorise. Résultat d'un dialogue amorcé en juillet dernier pour décrisper le climat de tension entre le Niger et le Bénin. Des tensions depuis le renversement de Mohamed Bazoum au Niger. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a créé la surprise hier en annonçant la nomination d'un nouveau directeur de cabinet civil. L'actuel ministre de l'Environnement, présent à New York où il participe aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, Idriss Saleh Bachar, succède à Idriss Youssouf Boy. Ce dernier est pourtant considéré comme l'homme de confiance et le véritable bras droit du président. Mais François Mazet, il ne manque pas d'adversaires et de critiques à N'Djamena. Sa mise à l'écart alimente donc les spéculations.
Selon le décret présidentiel, Idriss Youssouf Boy est appelé à d'autres fonctions qui ne sont pas précisées. Alors simple remaniement ou sanction pour celui qui était bien plus qu'un directeur de cabinet. Cousin, ami, envoyé personnel de Mahamat Idriss Déby, il avait la charge de réseau et d'affaires sensibles. Il y a un an, la publication spécialisée Africa Intelligence le décrivait ainsi « au cœur de complexes et lucratifs circuits de financement de matériel militaire, en lien avec notamment les Émirats Arabes Unis, dont on le dit très proche ». Idriss Youssouf Boy fut d'abord le secrétaire particulier de Déby fils d'avril 2021 à juin 2022. Il avait alors été écarté car mis en cause pour des détournements au sein de la Société des hydrocarbures. Dans son livre de Bédouin à Président, Mahamat Idriss Déby affirme l'avoir contraint à rembourser 13 milliards de francs CFA, près de 20 millions d'euros, et menacé de punition en cas de récidive. Il l'avait rappelé à ses côtés en janvier 2023. Son remplaçant a une image beaucoup plus polissée. Docteur en ingénierie, tout juste quadragénaire, Idriss Saleh Bachar a dirigé des agences publiques avant d'intégrer les gouvernements successifs à partir de 2019.
Les précisions signées François Mazet. Au Cameroun, Amnesty International et d'autres organisations appellent à la libération de 6 jeunes militants politiques arrêtés entre le 9 et le 11 septembre dans la ville de Figuil, dans la région du Nord. Leur interpellation est officiellement justifiée par le fait que certains d'entre eux arborer un t-shirt avec un message jugé subversif. Les ONG, elles, dénoncent une tendance à la répression de toute contestation dans le pays à l'approche de la prochaine élection présidentielle. Confirmation avec notre correspondant Polycarpe Samba.
Selon des sources à Garoua, ces jeunes militants appartiennent à l'association Pouvoir au peuple camerounais, en abrégé PPC. Arrêtés depuis 3 semaines et placés en garde à vue dans les cellules de la gendarmerie, ils seraient poursuivis, soutient l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun, pour attroupement illégal, incitation à la révolte, trouble à l'ordre public, entre autres. En appui à ces accusations, il leur est reproché, avance Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun, d'avoir porté pour certains des t-shirts sur lesquels était inscrite la mention « Pouvoir au peuple » et pour les autres, d'avoir participé à une manifestation non autorisée. Un stock de t-shirts avec des messages jugés subversifs par les gendarmes aurait aussi été découvert chez l'une des personnes arrêtées, une jeune femme. Une autre organisation de défense des droits humains active à Garoua soutient que les 6 militants et sympathisants de PPC n'ont jusqu'ici bénéficié d'aucune assistance juridique. À un an de l'élection présidentielle, les arrestations arbitraires et les détentions de personnes perçues comme critiques à l'égard du régime se multiplient, a constaté Amnesty International dans un communiqué, avant d'appeler de concert avec les ONG locales de défense des droits humains à la libération immédiate et sans condition de ces jeunes gens. Polycarpe Samba, Yaoundé.
Avant de passer au sport, un mot de l'Afrique du Sud. Deux fusillades meurtrières ce matin dans la ville de Lusikisiki, dans le sud-est du pays. 17 personnes tuées, dont une majorité de femmes, rassemblées pour l'organisation d'une cérémonie traditionnelle, selon les médias locaux. L'enquête est en cours, mais pour l'instant, ni les auteurs de ces fusillades, ni leurs motivations ne sont connues. Du football, donc, l'international guinéen Serou Guirassy a vécu une soirée mémorable avec son nouveau club, le Borussia Dortmund. Puisqu'il a enfin réussi à débloquer son compteur face au Bochum à l'occasion de la 5e journée. Les jaunes et noirs, d'abord menés 2-0, ont pu renverser le score grâce à un doublé de Guirassy qui a également provoqué un pénalty. Et donc, je vous le disais, Dortmund finalement a gagné 4-2 et revient provisoirement à 2 points du leader, le Bayern Munich. Les Bavarois qui reçoivent tout à l'heure à 16h30 TU le Bayer Leverkusen, lequel les a dépossédés l'an dernier du titre de Bundesliga. Et dans les rangs du Bayer, champion, dont le défenseur burkinabé Edmond Tapsoba. Il devrait avoir tout à l'heure du pain sur la planche face à une attaque munichoise très en forme, Sofiane Amazian.
Le Bayern gagne, certes, mais le Bayern encaisse beaucoup de buts. Déjà 9 en ce début de saison, la faute très souvent à une défense passive. Parmi les principaux concernés, le burkinabé Edmond Tapsoba, 25 ans, est titulaire indiscutable sous les ordres de Xabi Alonso. Nommé parmi les meilleurs défenseurs du championnat allemand la saison dernière grâce aux 2 titres remportés, la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne, le natif de Ouagadougou, au même titre que ses compères de défense Jonathan Tah et Piero Hincapié, doit encore digérer cette période faste. Et quoi de mieux qu'un bon match face au Bayern pour se relancer? Mais l'équipe coachée dorénavant par le Belge Vincent Kompany a retrouvé son allant habituel, déjà 16 buts marqués sous la houlette d'un Harry Kane en forme avec 5 buts et autant de passes décisives. La mission s'annonce corsée pour la 14e défense du championnat qui aura bien besoin d'un grand Tapsoba. Comme la saison dernière, le ROC burkinabé avait réalisé 2 très bons matchs permettant au Bayern de prendre 4 points sur 6 possibles. Le défenseur central s'était distingué par une passe décisive lors du match retour pour une victoire.
Et à l'heure du championnat allemand avec des Africains qui comptent, il est 14h45. Samedi 28 septembre, merci de rester avec nous pour la partie magazine avec, par ordre d'apparition dans vos oreilles, la une de Jeune Afrique consacrée à ces jeunes Africains qui combattent en Ukraine. La semaine de Jean-Baptiste Placa marquée par le discours d'adieu aux Nations Unies du président américain Joe Biden. Et puis, jusqu'où va la science? Réponse avec Caroline Lachowski et les 70 ans du CERN, le plus grand laboratoire européen de physique des particules qui s'intéresse à l'infiniment petit.
Afrique Midi sur RFI.
Et à la une de Jeune Afrique, un article intitulé « Les tirailleurs de Poutine », une enquête fouillée qui révèle que des milliers de jeunes Africains combattent dans les rangs de l'armée russe sur le front ukrainien au péril de leur vie. François Soudan, directeur de la rédaction de JIA, est interrogé par Catherine Potet.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Jeune Afrique a recueilli les témoignages de plusieurs de ces jeunes combattants africains. Où et comment sont-ils recrutés?
Alors, c'est effectivement une longue enquête, hein, signée Mathieu Olivier, Yves Plumet, Bobo, qui a été menée à la fois en Lettonie à la rencontre de déserteurs africains de l'armée russe, ils ont plusieurs dizaines à s'y être réfugiés, mais aussi à distance auprès de ceux que l'on surnomme les Wagner Noirs, toujours en activité, notamment sur le front ukrainien, et qui, eux, se comptent par centaines, voire par milliers. Alors, nous sommes partis d'un cas emblématique, celui d'un jeune centrafricain prénommé Alain, recruté directement dans la cellule d'un commissariat de Bangui en 2023 par un contractuel russe, afin de devenir agent de sécurité via une formation de 3 mois en Russie. Arrivé à Moscou, il se retrouve en réalité incorporé au sein de la milice Wagner, puis envoyé en Biélorussie, d'où il déserte début 2024. Emblématique parce que la Centrafrique est le seul pays africain où les Russes recrutent pratiquement un visage découvert, au point que les Centrafricains constituent aujourd'hui l'un des principaux contingents africains de l'armée russe. Moscou recrute également, Catherine, actuellement parmi les quelques 40 000 étudiants africains présents en Russie même, ainsi qu'au sein d'une population de migrants subsahariens beaucoup plus nombreuse, en usant de la technique éprouvée, de la carotte et du bâton.
Et ce que Jeune Afrique remarque, c'est que ces jeunes Africains semblent pris entre deux feux, d'un côté des promesses et de l'autre des menaces.
Alors oui, côté promesses, il y a d'abord le salaire, hein, lequel varie selon le type de contrat que nous avons pu consulter, entre 30 000 et 150 000 roubles par mois, entre 500 et 1 500 euros, soit au minimum le double du SMIC russe. Des soins médicaux gratuits, un pécule pour la famille en cas de décès, la possibilité d'accéder à un grade de sous-officier et surtout celle de demander la nationalité russe au bout d'une année de service. Alors côté menace, il y a celle pour les étudiants de perdre leur bourse d'études, pour les migrants leur autorisation de travail ou leur titre de séjour. On a documenté le cas de plusieurs ressortissants africains détenus pour trafic de drogue et qui ont vu leur peine effacée en échange de leur incorporation chez Wagner, aujourd'hui Africa Corps. Mais attention Catherine, au châtiment en cas de désertion. Prigogine avait lui-même expliqué dans une vidéo que les déserteurs sont exécutés après avoir eu les pieds broyés à coups de masse.
Voilà pour ces menaces et ces châtiments auxquels sont parfois soumis ces jeunes Africains qui sont envoyés sur le front où ils risquent leur vie. Que sait-on d'ailleurs de ce qui leur arrive alors? Que révèle l'enquête de Jeune Afrique?
Alors d'après Catherine, les témoignages qu'on a recueillis, d'autres qui circulent sur les réseaux sociaux et maintenant notamment de Ghanéens, de Tanzaniens, de Somaliens, la formation au combat est sommaire, hein, 4 semaines chez les Wagner, 4 mois au sein de l'armée régulière, avec un envoi directement en première ligne. Plusieurs témoins nous ont raconté avoir été utilisés pour des missions particulièrement exposées d'éclaireurs afin de repérer des cibles, de révéler les positions ennemies ou de récupérer des cadavres. Le taux de mortalité est élevé hein, parmi ces combattants africains et rares sont les familles à recevoir le pécule promis, encore plus rares celles qui ont pu faire transférer leurs dépouilles. Alors faut-il, Catherine, qualifier ces tirailleurs africains de mercenaires ? Oui et non. Oui, car ils portent des armes pour le compte d'un pays étranger en échange d'un salaire. Et on sait qu'il existe aussi au sein de l'armée ukrainienne des mercenaires, notamment colombiens. Et non, parce que comme le révèle notre enquête, beaucoup d'entre eux ont été trompés, piégés, voire forcés pour servir en quelque sorte de chair à canon, Catherine.
Merci François Soudan. Cet article intitulé « Les tirailleurs de Poutine » est à retrouver dans le mensuel Jeune Afrique et sur le site jeuneafrique.com.
François Soudan, directeur de la rédaction de JIA avec Catherine Poté.
Nicolas Brousse.
À 12h50, temps universel, nos dernières infos du monde, l'annonce par Israël de la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le mouvement libanais a confirmé le décès de son leader. Le guide suprême iranien, soutien du Hezbollah, dénonce une vision politique israélienne à courte vue et stupide. Aux États-Unis, il s'appelle Hélène et ses toits ravagent le sud du pays. Au moins 44 personnes sont mortes. De la Floride à la Caroline du Nord, 4 millions d'habitants sont encore sans électricité. Et c'est l'heure de retrouver notre éditorialiste. Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Nicolas Brousse.
Pour ses adieux à la communauté internationale, Joe Biden, le président des États-Unis, a tenu cette semaine devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York un discours poignant, notamment sur sa renonciation à finalement briguer un second mandat. Jean-Baptiste, doit-on pour autant assimiler cette sortie à un grand moment d'histoire ?
Lorsque l'homme le plus puissant de la planète prend congé de l'instance qui rassemble les peuples et les nations de la dite planète, l'histoire est en marche, quoi que l'on dise. Il se trouve que la densité et la sincérité de son discours étaient de celles que l'histoire retient. Et ses adieux contenaient quelques leçons essentielles, valables pour l'univers entier, donc pour l'Afrique, qui rappellent à leur devoir ceux qui ont en main le destin des peuples. Être président des États-Unis a été le plus grand honneur de ma vie. J'aime ce travail, mais j'aime encore plus mon pays, a-t-il dit, avant d'affirmer que le temps était venu pour lui de laisser le leadership à une nouvelle génération et d'inviter ses pairs à ne jamais oublier qu'il est des choses bien plus importantes que rester au pouvoir. C'est votre peuple qui compte plus que tout le reste, a-t-il insisté, les priant tous de ne jamais oublier qui ils sont là pour représenter aux Nations Unies.
Bon, mais il n'empêche, Jean-Baptiste, que l'état du monde qu'il lègue n'est pas franchement rassurant.
Joe Biden l'admet au point d'emprunter pour dresser l'état des lieux un extrait de son poème « La seconde venue » à William Butler Yeats, prix Nobel de littérature irlandais. Tout se disloque, le centre ne peut tenir, l'anarchie se déchaîne sur le monde comme une mer noircie de sang. Les meilleurs ne croient plus à rien, les pires se gonflent de l'ardeur des passions mauvaises. Fin de citation. Bien que centenaire, cette œuvre de la poésie moderniste, datant de 1919, dépeint un monde inquiétant qui pourrait bien être celui d'aujourd'hui. En dépit de ce tableau désespérant, le président sortant des États-Unis reste persuadé que le centre, ici, tient et que l'apparent chaos actuel peut encore être surmonté. Voilà pourquoi, à la suite de William Butler Yeats, il a cité Nelson Mandela dans une de ses plus vibrantes invites à la persévérance. « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse », disait le leader sud-africain, prix Nobel de la paix, pour qui bien des situations peuvent paraître insurmontables jusqu'à ce qu'elles soient surmontées. Vaincre l'adversité pour parachever ses rêves, tel est le message emprunté par Biden à Mandela pour son testament diplomatique en ces temps incertains. Chaque génération a ses défis à relever et nous serons toujours plus solides ensemble que seuls dans ce monde, conclut le dirigeant américain.
Quand même, n'est-ce pas un peu insolite d'entendre ainsi Joe Biden parler de démocratie au reste du monde ?
Celle-ci a certes été quelque peu malmenée aux États-Unis, notamment en raison de la conception toute particulière qu'en avait son prédécesseur, qui se trouve être encore un des deux prétendants à sa succession. Peut-être est-ce pour cela que Joe Biden a eu l'humilité de préciser que la démocratie n'appartient en exclusivité à aucun pays, aucun peuple. Si ce discours d'adieu dans le cénacle du Palais de Verre de Manhattan a quelque chance de trouver sa petite place dans l'histoire, c'est parce qu'il était celui d'un honnête homme dont les dirigeants et les peuples du monde, globalement, saluent la décence. Et dans les relations internationales, jamais l'on n'a eu autant besoin de décence sur cet échiquier guetté par l'anarchie, l'isolationnisme, l'outrance et même une certaine tentation du mépris. Autant la sobriété et l'humilité de Biden dans ce dernier discours à l'ONU pèseront de leur poids dans la place que lui fera l'histoire, autant après lui, l'influence des États-Unis comme grande puissance dépendra de l'aptitude du leader de ce pays à une certaine décence, à des rapports de simplicité aux autres. Encore faudrait-il, à quelques voix véhémentes que l'on entend ici et là dans la campagne présidentielle, comprendre que miser sur l'arrogance et une certaine morgue offre de moins en moins de chances de succès.
La semaine de Jean-Baptiste Placa à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Jusqu'où va la science ? Nouvel élément de réponse ce week-end avec Caroline Lachowski. Bonjour.
Bonjour.
Et le CERN, le plus grand laboratoire européen de physique des particules, qui fêtera officiellement ses 70 ans le 1er octobre. 70 ans d'exploration de l'infiniment petit pour repousser les limites des connaissances grâce à la collaboration de physiciens du monde entier expérimentant sur le gigantesque collisionneur de particules. Caroline, c'est une vraie aventure scientifique, technologique, atomique et humaine qui est loin d'être terminée.
Et pour cause, vu qu'il s'agit de percer les mystères de l'origine de l'univers et de toutes les matières qui le composent, à commencer par les énigmatiques et toujours introuvables matières noires et énergie sombre, qui composent pourtant 95% de notre univers. Alors jusqu'ici au CERN, à Genève, dans le LHC, le très grand collisionneur de particules, les physiciens ont réussi l'exploit de mettre en évidence les bosons et le fameux boson de Higgs, détecté en 2012. C'est la plus infime et la plus primordiale particules de l'univers, mais il s'agit maintenant d'aller encore plus loin dans cette exploration des constituants les plus fondamentaux de la matière. Or, ce n'est pas le moindre des paradoxes. Pour explorer l'infiniment petit, il faut concevoir des machines toujours plus gigantesques, comme le FCC, le futur collisionneur circulaire, 91 km de circonférence à cheval entre la France et la Suisse, dans un tunnel à 200 mètres sous terre, est actuellement à l'étude, comme l'a annoncé en cette année de célébration du 70e anniversaire du CERN, sa directrice générale Fabiola Gianotti. Le FCC serait l'instrument le plus puissant jamais construit pour étudier les lois de la nature dans leur aspect le plus fondamental. Il serait opérationnel en 2045.
Donc au CERN, on voit décidément très loin pour explorer l'infiniment petit, mais jusqu'où nous entraînera ce gigantisme technologique ?
C'est la grande question qui se pose aujourd'hui pour le CERN, non seulement le coût financier, mais aussi et surtout l'impact environnemental et la consommation énergétique d'un tel instrument qui ne manque pas d'interroger les chercheurs eux-mêmes. Jusqu'où sera-t-il possible et surtout soutenable de repousser les limites de la connaissance ? Un des arguments en faveur de la construction de ce futur collisionneur circulaire géant est aussi géopolitique, car la Chine est en train d'en construire un. Et la directrice du CERN n'a pas manqué de rappeler à raison que si la Chine souhaite devenir leader dans ce domaine des sciences et de la connaissance fondamentale avec toutes les technologies associées, cela risque fort de mettre fin à ce qui est dans l'ADN même du CERN et probablement sa plus formidable réussite, la mise à disposition pour toute l'humanité des découvertes et des technologies associées. Ce partage des recherches et des connaissances, cette science libre et ouverte, est à l'origine même de la fondation du CERN en 1954, il y a 70 ans exactement, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, avec pour mission de soutenir une recherche scientifique d'excellence afin de promouvoir une collaboration pacifique dans la recherche fondamentale. Et c'est exactement ce qui a été réalisé au CERN, où collaborent des physiciens et physiciennes du monde entier, plus de 17 000 personnes en tout dans le monde, 23 États membres, 11 États membres associés. Cet esprit humaniste est aujourd'hui rattrapé par la guerre sur le sol européen, la guerre en Ukraine. Le CERN, laboratoire européen, a rompu son contrat avec la Russie. D'ici au 30 novembre prochain, date butoir, ce sont des centaines de scientifiques russes qui seront expulsés, rappelle la revue Nature, à moins que ceux-ci ne rejoignent des laboratoires situés en dehors des frontières de la Russie. loin de l'idéal pacifique, libertaire et sans frontières. C'est peut-être aussi pour cela que le CERN a tenu à mettre les petites particules dans les grandes toute cette année 2024 pour fêter son 70e anniversaire. La célébration officielle aura lieu à Genève mardi 1er octobre et se déroule aussi tout ce week-end à la Cité des Sciences à Paris. Au programme chasse à l'antimatière, au boson et au neutrino, ça promet.
Chronique de Caroline Lachowski que l'on retrouve la semaine prochaine pour Autour de la question. C'est la fin de cette édition d'Afrique Midi, mise en onde par Lorraine Nemoza, rédaction en chef Karine Franck avec Cécile Périllard. Une petite respiration de 30 secondes, pas plus, et on replonge dans l'actualité sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Et si nous vivions sans cash, ni pièces, ni billets pour échanger biens et services ? C'est le rêve d'Abdeslam Alaoui, patron marocain de HPS qui dématérialise le paiement. Déjà présente dans 95 pays, cette entreprise africaine veut réduire les fractures financières.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure, à 23h10 TU, sur RFI.